Palettenbräune.
C'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et oui, ça fait un petit moment que vous m'avez pas entendu sur un épisode classique et sur un épisode tout court, puisque je vous ai proposé une série d'épisodes avec des auteurs. J'espère en tout cas que ça vous a plu. En tout cas, ils ont été très chaleureusement accueillis, donc ça c'est cool. Et puis après j'ai pris une petite pause, j'ai pris des vacances, donc voilà. Et puis là je reviens aux affaires. C'est le premier, on va dire, épisode classique depuis l'épisode anniversaire que j'ai fait avec Val. D'ailleurs Val va très bien, hein, pour ceux qui se demandent. Il fera d'autres épisodes, hein, vous inquiétez pas. Je sais que vous aimez entendre Val. Il reviendra. On s'est calé quelques mangas pour préparer d'autres émissions ensemble. Pour cette nouvelle émission, je ne vais pas la faire patienter plus longtemps, c'est un retour, elle revient pour la deuxième fois pour parler d'une œuvre bien cool. On va laisser encore un peu de suspense, parce que vous l'avez vu dans la description, mais j'avais envie d'en reparler, et puis quand j'ai name-droppé le nom, elle m'a dit « je vais être là !» Et oui, c'est Maemo, Alicia, comment ça va? Salut!
Bonjour! Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup de m'inviter pour ce titre que j'adore particulièrement, donc ravie d'être là pour en parler, et ravie d'être de retour aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, donc soyez indulgents, je reprends un peu tout ça, mais en tout cas, ravie d'être là.
Bon, bah c'est cool, ici c'est détente, hein. Tu le sais, maintenant t'as l'habitude, on se prend pas trop la tête. Justement, on va parler d'un manga très good vibes, très, voilà, qui fait du bien, on en a besoin en ce moment, donc voilà, c'est dit... Il faut qu'Hirai et Sumi rentre dans le lore. J'aime bien toujours garder un peu le suspense pour annoncer le titre. Mais oui. Là, on va le balancer. Bref, on s'en fiche. C'est important que je le fasse rentrer un peu dans ces émissions classiques. J'en avais parlé il y a 6-8 mois de ça avec l'envers du manga. On l'avait name droppé dans une émission où on a parlé un peu de plein de titres. Et là, je me dis, j'aimerais bien quand même qu'on rentre dans le détail de ce titre-là parce qu'il y a quand même des choses à dire. Donc on va lui consacrer une belle émission. Mais avant ça...
Ça va être bien.
Avant ça. On va se chauffer comme un diesel, histoire de se remettre un peu dans le bain. Est-ce que tu veux éventuellement me parler d'une de tes dernières lectures marquantes avant qu'on se lance dans du Kengo Shinzo ?
Oui, alors effectivement. Alors on va partir, vu que là on était sur du good vibes vraiment, on va partir sur quelque chose d'un peu moins good vibes, mais pourtant de très très important. Je vais vous parler du titre aujourd'hui, Daisy, lycéenne à Fukushima, de Reiko Momochi. Je ne sais pas si tu connais ou pas.
Alors quand je pense, non je ne connais pas, mais quand j'entends Fukushima, ça me fait penser à un problème nucléaire, donc je ne sais pas si c'est connecté.
Ouais,
mais...
exactement,
okay.
C'est tout à fait ça. En fait, c'est sur 4 lycéennes après le tsunami de Fukushima, et elle raconte un peu ce que c'est la vie et le quotidien sur place après cette catastrophe. Comment elles sont vues par le reste du Japon, comment elles se sentent entre elles. C'est déjà compliqué en tant qu'adolescent de trouver sa voie, mais encore plus quand on se retrouve dans une situation comme ça. Donc c'est vrai que là, on va vraiment suivre tout ça, aussi bien aussi les agriculteurs d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que ça regroupe énormément de témoignages différents sur la difficulté, mais aussi l'espoir qu'il y a derrière tout ça. Et c'est une œuvre que j'ai trouvé absolument marquante. J'ai pleuré. Alors, je pleure facilement, c'est connu, mais c'est vraiment très, très touchant parce que c'est très humain et très, très réaliste. C'est quelque chose qui existe et les témoignages sont réels. C'est édité chez Akata et vraiment, j'ai adoré. C'était un énorme coup de cœur. Je peux que vous le conseiller.
Ouais, ils ont toujours le nez Akata pour arriver à trouver des titres un petit peu qui sortent du lot. J'ai l'impression que c'est un peu leur marque de fabrique d'arriver justement à aller chercher des titres que on trouvera pas forcément chez d'autres éditeurs, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai avec leur
C'est ça, c'est souvent des titres très engagés.
Ouais. Mmh. Mais c'est bien, on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin, puis il en faut pour tous les goûts. Et on ne cesse de le répéter, le manga, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on pourrait presque faire un générateur de mots-clés et arriver à trouver une œuvre juste en se disant, bah, tiens, on met deux mots-clés, puis tac, est-ce qu'il y a une œuvre là-dessus? Il y a de fortes chances de trouver quelque chose quand même.
C'est exactement.
Donc bah c'est cool. Écoute, est-ce que tu avais autre chose à éventuellement à recommander ou c'était juste ce titre-là?
Oui, qui du coup est un peu plus connu quand même que ça, mais on va avoir Asadora,
Ouais, ok.
que je découvre vraiment. J'ai déjà lu Monster de cet auteur, dont le mangaka ne me revient pas. C'est
C'est
incroyable, mais je
Naoki
n'ai plus le nom.
Urasawa, mais t'inquiète.
Naoki Urasawa, voilà. Et c'est vrai que j'avais adoré Monster, j'ai adoré 20th Century Boys, et on m'a beaucoup conseillé Asadora. J'ai ma meilleure amie Camille qui est complètement fan, et j'ai décidé de me laisser tenter. Effectivement, c'est génial. Il y a vraiment un mix entre kaiju et on a un personnage féminin fort, malgré sa jeunesse qui en impose. Et c'est vraiment un plaisir de lire ça, parce que c'est à la fois très tendre et très drôle. Et en même temps, il y a un fond quand même très sérieux et des sujets abordés qui sont ouais, vraiment, vraiment sérieux. Donc, un vrai plaisir de lire ça aussi.
Ouais, ce que j'aime bien, c'est le côté feuilletonnant de ce manga. Tu sais, tu suis en fait l'héroïne à travers les époques. Tu la vois grandir au fur et à mesure des tomes. Et c'est à chaque fois un marqueur temporel de l'époque au Japon, de ce qui se passait au Japon à ce moment-là. Et
Exactement.
c'est vrai qu'on part d'un gros drame pour ensuite partir sur quelque chose de plus slice of life, tranche de vie, avec du fantastique, de l'enquête, un peu de thriller. Tu vois, je trouve que c'est tout ce que sait faire, en tout cas Urasawa, et je trouve que Asadora, c'est vraiment super. Le seul petit bémol, c'est que c'est un petit peu loin à sortir. Kana a chopé vite les
Oui.
droits. Et du coup, on est au même niveau que le Japon. Donc, il y a peut-être, ouais, à chaque fois, il y a un an entre chaque titre. C'est super long. C'est super long.
C'est assez long et j'avoue que j'ai lu le tome 6, il me reste le 7 à lire. Je pense que je vais attendre un peu. Je crois
Oui.
que le suivant sort en juillet, donc je vais essayer de le lire courant juin. Comme
Oui.
ça, j'aurai pas trop d'attente entre deux tomes parce que là, j'ai vraiment dévoré les 6 premiers tomes, mais il faut que j'apprenne à me contrôler un peu.
Ouais, c'est ça qui est le plus dur, hein. C'est que des séries qu'on adore, qu'on est à jour, ça va être un peu aussi la thématique du manga d'aujourd'hui, hein, parce que c'est long l'attente entre chaque tome, mais à chaque fois que c'est là, on est content et on repart avec une bonne piqûre de positif. Bah écoute, moi de mon côté, ça va être, j'en avais déjà parlé un petit peu et je l'avais commencé il y a longtemps, j'avais fait une pause, j'ai repris, enfin bref, je me suis remis à relire Prisonnier Riku. Notamment avec le poteau Chris qui m'en parle très souvent et je me dis bon allez je vais m'y remettre. Alors je les suis en numérique. C'est du Akata aussi pour info.
C'est intéressant ça, en numérique et pas en physique.
Ouais. Alors c'est un des rares, si ce n'est peut-être pas le seul shonen d'Akata. Je sais pas. Ils ont pas beaucoup de shonen, j'ai l'impression Akata. Mais en
Non,
tout cas,
effectivement,
ils
ils ont
ont.
Sound of Life,
Ok. Et c'est du shonen.
qui est un shonen.
Ah ok, tu vois, bon écoute, je dirais que moi là-dessus, moi je les vois plutôt sur du... Alors après, c'est l'avantage, on est en train de dire c'est du shonen, c'est du shoujo, etc. Akata a envie de se... on peut le préciser ici, hein, mais a envie un peu de se détacher de ses lignes éditoriales et utilise plutôt d'autres appellations pour faire
Oui.
rentrer plutôt des catégories d'âge plutôt que des tranches éditoriales. Donc, mais en tout cas, voilà, si on prend stricto sensus, Prisoner Ikus, c'est un shonen qui est écrit et dessiné par Shinobu Seguchi. Seguchi, je sais pas comment on prononce, enfin bref. La série est terminée en 38 volumes, donc c'est une grosse série. Et je vais répondre à ta question, enfin en tout cas ton interrogation, de te dire, mais tiens, pourquoi numérique? Bah parce que c'est un manga qui a un petit peu de mal à être réédité. Je suis pas convaincu qu'il ait beaucoup marché en fait en France, qu'il ait eu un gros carton d'édition. Et il y a pas mal de trous en fait dans la série. Enfin, en tout cas aux dernières nouvelles, il y avait pas mal de tomes qui n'étaient pas réimprimés. Et quand j'ai appris que Akata le sortait en numérique, enfin en tout cas avait eu les droits pour le sortir en numérique, et ben écoute, j'y suis allé direct. Donc j'ai acheté les. Là actuellement, j'en suis à 30 sur 38. Il me reste plus que 8 tomes. Et
Ah oui, bientôt la fin.
je suis au tome 12 actuellement. J'ai acheté 30 tomes sur 38 et je suis au tome 12.
Ok.
Parce que je voulais avoir tu sais, je voulais avoir cet effet un peu de me dire, de me le binger si j'ai envie de me le binger, d'avoir tous les tomes
Ouais.
sous la main pour pouvoir le lire. En vrai, en numérique, ça passe très bien. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un convaincu du numérique. Donc, tu le lis sur tablette. Aujourd'hui, on a des bonnes tablettes et ça permet vraiment de pouvoir avoir ça sous la main. Et souvent, des fois, c'est souvent plus pratique. Rapidement, de quoi ça
Oui.
parle? On est dans un monde dystopique, je dirais. C'est pas vraiment, ça dépeint pas vraiment la réalité. On apprend en fait qu'il y a une météorite qui s'est écrasée en fait sur la ville de Tokyo et qui a du coup séparé la ville en deux, avec bah, d'un côté les fortunés et d'un autre côté les gens plus pauvres, dans une situation assez précaire. Et du coup, c'est on a, si tu veux, toute la criminalité et toute l'insécurité qui a augmenté énormément. Et ça a poussé en fait le gouvernement à mettre en place des prisons de haute sécurité pour incarcérer en fait les, bah, les tous les criminels, tous les délinquants, etc. Sauf que on se rend compte en fait qu'on est quand même pas loin d'une dictature avec avec quand même des gens qui se font incarcérer. C'est pas tout le temps justifié tout le temps pour la bonne raison. Et ben, c'est ce qui arrive justement à notre petit Riku, qui lui se fait condamner à tort pour le meurtre de son grand-père adoptif, et il va se retrouver en prison, sauf que petite particularité, il a 13 ans et il va se retrouver dans une prison mêlé avec des adultes et des gens.
Ah oui, 13 ans.
Ouais,
c'est jeune.
Et ouais, parce que dans ce monde-là, en tout cas, ils font pas de distinction en fait entre les mineurs et les majeurs, donc ils mélangent tout le monde dans cette prison de haute sécurité qui est sur une île qui est réputée on peut pas s'en échapper, etc. Et puis lui va se retrouver au milieu de chefs de gang, de gangsters, de mecs 3 à 4 fois plus grands que lui, plus larges que lui, enfin bref, c'est un shonen quand même malgré tout qui est quand même assez violent. Où il y a quand même énormément de tension, c'est énorme, enfin c'est super bien rythmé, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Et clairement, voilà, je vous en parle ici, mais je prévois un épisode certainement d'ici la fin de l'année, à la rentrée peut-être, et je ne sais pas encore, ça va dépendre du temps. Je voudrais tout lire avant de pouvoir, parce que ça, c'est typiquement le genre de manga où c'est du high concept, tu sais, et il faut tout lire parce que j'ai envie d'avoir la chute. Tu vois, je veux vraiment savoir comment ça se termine, et comme ça, au moins, on pourra en parler. Autant, il y a plein de mangas, tu te dis, tu peux lire le premier chapitre, et après... advienne que pourra, j'ai envie de dire, et on peut le faire un peu comme on veut. Et après, moi, c'est souvent le prétexte de revenir une fois que je l'ai fini, parce que je l'ai fini 2 fois dans le podcast. Là, après, d'un coup, je me dis, bon, je vais aller jusqu'au bout, comme ça, j'aurai mon avis global avec est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à la fin, est-ce que ça va tenir vraiment ses promesses. Voilà, affaire à suivre, mais en tout cas, c'est vraiment très très cool à lire. Bon, je sais pas si t'es un peu shonen ou pas, mais tu pourrais y jeter un œil à l'occasion, surtout que le numérique c'est pas très très cher, je crois qu'ils sont à 4,90 les tomes, si je dis pas de bêtises.
Ouais, donc, j'allais te demander justement le tarif, parce que parfois le numérique est pas forcément intéressant, mais je pars du principe qu'une fois qu'on est en dessous des 5€ en général, ça va. Après, c'est une très longue série, donc on aimerait que ce soit un peu moins cher, je pense, mais en dessous de 5€, ça va.
Je crois, alors de même, je crois
que c'est abordable.
Je ne sais pas si c'est 4,30€ ou 4,90€, ça sera à revérifier. Mais dans certains cas de figure, moi je pense que ça se justifie. Tu vois, je reprends toujours le cas Evil. Evil, moi je ne suis pas convaincu par le prix physique. Et j'ai un peu de mal à mettre 20€ dans ce format-là. Et je me dis, un numérique, il est à 6,90€.
Ouais, c'est ce que moi j'ai fait.
Et tu vas prendre et voilà.
Je les ai tous achetés en numérique parce que je trouvais le prix exorbitant. Et souvent, les tomes sont déjà abîmés alors qu'on est à 20€ quasiment. Et j'ai craqué pour le tome 1 en numérique en me disant, je vais voir. Et au final, comme c'était 6,99€, j'ai tout lu en numérique parce qu'avec 3 tomes, j'étais à peine au montant de un tome physique. Donc,
ouais, c'est ça.
Donc ouais, vraiment numérique, en plus de très très bonne qualité.
Oui,
la plupart des plateformes proposent vraiment de très très bonne qualité en numérique, donc ça vaut vraiment le coup.
Normalement, il faut prendre le. Enfin, normalement, ils ont tous les mêmes fichiers, ils ont tous les mêmes prix, ils ont tous les mêmes promos. Donc après, c'est plus prendre la plateforme avec laquelle tu as le plus d'affinité. Dans ton cas, je sais que tu es pro Apple, donc tu prends ça avec Book. Moi, j'ai une tablette Android, donc je prends ça avec Google. Et je me dis que dans le temps. Logiquement, ça devrait être plutôt stable. Moi, c'est plutôt la question qu'on se pose souvent avec le numérique, c'est que qu'est-ce qu'il en reste demain si la plateforme est ferme ?
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester sur des grandes plateformes,
voilà.
Comme exactement Google ou Apple, en se disant, normalement, peu de chances que ça s'écroule du jour au lendemain.
C'est ça.
Mais c'est vrai que je comprends aussi la réticence à acheter du numérique. J'ai eu du mal, j'ai peu de choses en numérique. Mais il y a des fois où je me dis, vraiment, ça vaut le coup, faut pas hésiter.
Et tu vois, regarde, c'est rigolo que tu dis ça parce que on a eu une info là, il y a pas si longtemps que ça. On a Crunchyroll qui est arrivé chez Mangayo. Et Oui. Le premier titre qu'il propose, c'est IQ. Et IQ, moi, je suis très manga sportif. Ça fait un petit moment que ça me fait de l'œil. Et quand même, c'est 42 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises, mm-hmm. un truc comme ça.
Oui,
et...
je crois que c'est vraiment une longue série.
Et mm-hmm. je me dis, purée, non, ça fait chier, quoi, j'ai pas la place. et puis, c'est un budget, quoi. Et là, et en fait, il s'est passé un choix. Tu vois, en même temps qu'on a eu cette annonce-là, on a eu l'annonce, entre guillemets, d'une perfecte édition de IQ chez Crunchyroll, vendue pas cher, je crois, 12€ des bananes. Je me dis, tiens, je vais regarder. Et clairement, j'ai été un peu déçu, parce que je l'ai eu entre les mains, ce double tome d'IQ, et je suis pas hyper fan, tu vois, j'ai pas trop aimé, c'est de la... Il y a pas de jaquette, c'est des couvertures dans le même genre que le Lézard Noir. En format, c'est pas beaucoup plus grand, c'est pas aussi grand qu'une Perfect classique, donc j'irais même pas dire que c'est une Perfect, en fait, c'est plutôt un double tome à la sauce Crunchyroll.
Un peu comme les Full Metal Alchemist, qui avait été sorti aussi en double tome, pas la Perfect édition, mais l'édition qu'il y a eu avant, qui était en double tome, en petit format, enfin format classique, juste deux tomes rajoutés, sans jaquette, etc.
Oui. Ouais. C'est un peu plus grand quand même que les FMA. Après, je me dis, bah voilà, c'est arrivé sur Mangayo. Bon, en fait, je vais reprendre un abonnement à Mangayo dès que j'aurai envie de lire IQ, et puis on va se les lire sur Mangayo, et puis voilà, et puis ça sera... C'est ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une époque où le manga est de plus en plus cher. Il faut faire des choix. On n'a pas un budget extensible, on n'a pas une bibliothèque extensible, donc c'est vrai que moi, je me dis, la série que je veux absolument avoir dans ma collection, je la prends en numérique. Une que je sais que je n'ai pas spécialement envie de l'avoir, mais j'ai envie de la lire, je vais peut-être la lire en démat avec Mangayo, par exemple. Et après, une série que je veux avoir, mais que je ne veux pas mettre trop de rond, je vais peut-être me tourner vers le marché de l'occasion. Et puis après, il y a les séries où je ne peux pas attendre, où là, je veux absolument l'avoir en neuf et j'irai chez mon libraire l'acheter. Mais toujours en restant dans le côté légal, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de possibilités pour... être sympa avec sa bourse, parce que ouais. c'est important.
Et Mangayo, j'ai eu un peu du mal à m'y mettre, parce qu'il y a un an et quelques, il n'y avait pas énormément de choses dessus. Autant maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de choses
beaucoup d'akata.
À lire, des titres récents, beaucoup d'akata. C'est vrai que moi, je lis par exemple Corps solitaire dessus, où il m'arrive même de lire des mangas que j'ai en physique.
C'est génial, Corps solitaire.
Mais je suis en voyage, et du coup, je les lis sur Mangayo. Mais oui, Corps solitaire, que je recommande. Le tome 10 est sorti récemment, donc...
Récemment
vraiment, si vous voulez voir. Il y a 2 semaines, 3 semaines.
Ah, d'accord.
Tome 10 est sorti, je dis pas de bêtises, hein, mais en tout cas, c'est assez récent.
Donc, on est d'accord que c'est dans le tome 9, à la fin du tome 9, où notre héroïne a pris une décision importante et que ça s'arrête là-dessus. C'était le tome 8. Je me souviens plus. J'ai un doute.
C'était le tome 9, je crois.
Ah, d'accord. Je sais pas si je suis à jour, en fait. J'ai un doute. Peut-être manqué un ou deux. Mais c'est super. Mais ça aussi, c'est trop long à sortir. Non, mais oh.
Oui. Mais voilà, donc Mangayo, c'est vraiment pratique. Et comme dit, pour les gens qui n'ont pas encore testé. Et si vous n'êtes pas sûr d'aimer lire en numérique, je pense que ça peut être très bien. Vous avez l'offre avec l'essai gratuit.
Oui,
vous testez,
une semaine,
vous
je crois.
Voyez. Franchement, bien pratique. Ouais.
Ouais, puis ça reste pas très cher. Hein. Ça reste 6,90€ par mois.
Exactement.
Y a...
Moins cher que la plupart des tomes.
C'est pas le plus gros catalogue de fou, il n'y a pas les gros bangers de malades, même s'il y a quand même Naruto, il y a Boruto, des choses comme ça. Mais ils ont cette vocation-là un jour d'avoir des énormes titres sur la plateforme. Pour l'instant, ils les ont pas, mais ils ont pas un catalogue qui est... Enfin, il est loin d'être honteux, en tout cas. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a des choses vraiment hyper intéressantes dessus,
carrément.
Quoi.
Et ça permet aussi de tester des choses où parfois on n'a pas envie d'investir énormément. Là, je vois Tezuka. Typiquement Osamu Tezuka, que j'ai envie de lire parce que c'est culte, mais j'ai pas envie de payer 30€ une intégrale. Ils ont sorti tous les Tezuka sur... Ouais. Enfin, quasiment, je crois, à quelques exceptions, mais ils ont sorti les Tezuka sur Mangayo. Déjà, ça évite de se trimballer un pavé de 300 pages, et ensuite, ça permet de tester au moins sans prendre un risque énorme. Si on n'a plus envie, on s'arrête et on passe à autre chose.
C'est ce que j'ai fait, moi, récemment. Hein. J'ai coupé mon abonnement parce que je me rendais compte que je payais, puis en fait, je m'en servais pas. On n'a pas tout le temps de lire, donc je me dis je vais mettre en pause et puis je reviendrai plus tard. L'avantage c'est que ça garde ton historique, donc ça c'est bien, et puis voilà, et puis quand je me réabonnerai je reprendrai là où je me suis arrêté à pas mal de tomes, donc voilà.
Exactement, tu pourras continuer Corps solitaire.
Ouais, je lisais aussi Kowloon, générique romance aussi, que j'aime bien,
Ah oui, ouais.
Mais pareil, ça sortait trop, ça sortait pas assez vite. Donc du coup, je me dis, on va attendre un peu que ça sorte. J'aime bien, moi, tu sais, que des fois, t'es un peu tiraillé, j'aime bien binger, mais j'aime bien aussi avoir un peu d'avance sur mes tomes, et donc tu vois, c'est voilà, bon, c'est un peu contrariant, mais bon, bref, faut patienter.
Y a des séries, on peut pas attendre. Typiquement, Hirayasumi, je peux pas attendre.
Non.
Le tome sort, je l'achète, je le lis. Y a pas. Je peux pas me dire, je le mets de côté un mois. C'est vraiment, je sais que je vais le lire dans la foulée. C'est sûr.
Bah, moi, bref, le tome 4, moi, j'ai un peu attendu avant de l'acheter quand même. Et ce qui est bien, c'est que j'ai suffisamment attendu pour qu'en fait, il y ait le tome 5 qui sorte pas longtemps après. Tu vois, c'est pour te donner une idée. Ce qui fait que j'étais vraiment dans cette. J'ai eu l'impression d'avoir lu du Hirayasumi plus souvent que d'habitude, quoi. Et bref. Mais écoute, si tu veux bien, on va pas perdre de temps. On va se lancer dans le sujet. Donc, vous l'avez compris. Bah ouais. Aujourd'hui, on va vous parler d'Hirayasumi de Kengo Shinzo. C'est parti. Alors, ma chère Alicia, ce bon vieux Kengo Shinzo, faut le dire, hein, c'est un titre qui est pas facile à dire, hein, au début, hein, mais à force de le répéter, ça en devient une seconde peau. Hirayasumi, 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 voilà, on y arrive. Parce qu'au début, c'était chaud, hein, quand même, j'ai un petit peu galéré.
Oui, on a tous eu du mal.
Avant de se lancer dans le résumé, est-ce que tu veux te lancer un petit peu sur la description du titre ou de l'auteur? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'auteur, de ton rapport, de ce qu'il a sorti, du Lézard Noir, puisque c'est édité chez le Lézard Noir? Est-ce que tu veux en toucher deux mots avant?
Je peux. C'est vraiment un combo magnifique pour moi. C'est-à-dire que c'est mon mangaka préféré dans ma maison d'édition préférée. Donc ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Keigo Shinzo, donc, qui est un mangaka qui a 37 ans, qui n'est donc pas très très vieux.
Il est tout jeune.
Non, les personnes de 37 ans, vous n'êtes pas vieux. Je préfère le préciser.
Merci.
Oui, au cas où. Qui est du coup dans la même génération un peu que Oshimi et que Inio Asano, qui ont eux la quarantaine, 42 je crois si j'ai bien retenu, et qui est spécialisé Keigo Shinzo vraiment dans la tranche de vie. C'est sa spécialité, c'est ce qu'il aime faire, que ce soit dramatique ou comme aujourd'hui très positif, il a vraiment ces deux facettes et c'est vraiment son gros point fort. Il va travailler les personnages avant tout, il va être très très réaliste et très juste sur les émotions qu'il veut faire passer. Et il a eu effectivement des séries qui l'ont fait énormément connaître, comme Mauvaise Herbe en 4 tomes, et Hirayasumi qui est en train de prendre le dessus, qui devient très très connu. Vraiment, on en parle beaucoup beaucoup. Ça me fait très plaisir.
Il a un énorme capital sympathie. J'entends dire que l'éditeur est très très content des ventes d'Hirayasumi. Dans quelle mesure, je sais pas, parce qu'on lui a pas posé la question, on aurait pu, hein. Mais après, c'est pas le but non plus. Mais clairement, il a l'air d'être très satisfait du succès, et c'est à la fois un succès de librairie pour lui et un succès critique, parce que j'ai entendu personne dire qu'il a pas aimé Hirayasumi quand il l'a lu, quoi.
C'est ça. On peut ne pas accrocher au côté tranche de vie, etc. Mais on peut pas dire que c'est un mauvais manga. C'est vraiment le truc de ça ne convient pas. C'est un style qui peut ne pas convenir, mais c'est pas mauvais. Les gens vont quand même le lire jusqu'au bout. Et il a ce côté aussi très intergénérationnel. Je pense qu'Hirayasumi, c'est vraiment un manga qu'on peut mettre dans la main aussi bien des plus jeunes que des plus âgés. Chacun va avoir sa lecture du manga. Et oui, je pense que c'est un énorme succès. Il y avait eu une pub d'ailleurs, enfin plusieurs publicités sur Manga News, etc. Quelque chose que Lézard Noir ne fait pas souvent non plus, de la publicité. Donc là, c'est vrai que d'avoir ça, on se dit, bon, c'est un titre vraiment prometteur et qui doit être mis en avant, parce qu'effectivement, il peut séduire un public pour faire découvrir aussi bien l'auteur que la maison d'édition.
Bah, clairement, je te rejoins. Après, c'est même un titre, je pense, qui peut être un peu la porte d'entrée dans l'univers manga. Tu vois, c'est devenu un peu ce titre assez facile d'accès. On en parlera tout à l'heure quand on donnera notre avis sur l'œuvre. Mais je pense que c'est devenu une œuvre vraiment intergénérationnelle. Tu vois, c'est... je pense que... Oui. Alors, pas trop jeune non plus, parce que je pense que c'est des thématiques qui vont pas trop toucher. Mais un adolescent bien avancé, toi, 15-16 ans, je pense qu'il peut assez facilement lire Hirayasumi, parce que il y a la thématique de l'université, des choses comme ça, puisqu'on a la cousine
de l'amitié
d'Hiroto qui va à la fac. Donc clairement, ça peut, on peut se raccrocher un peu à tout ça. Toi, au niveau de Kengo Shinzo, c'est quoi ta porte d'entrée, ton premier manga?
Ça a été Mauvaise Herbe.
Ok. Ah ouais, direct.
Ça a okay. été... ouais, en fait, dans ma librairie de quartier, on m'avait conseillé le tome 1 de Mauvaise Herbe en disant vraiment, lis ça, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. J'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps, mais c'est incroyable. Et je suis tombée amoureuse de son trait, pas au premier regard. J'ai pas forcément apprécié ses dessins tout de suite.
Ok.
Parce que j'ai trouvé ça un peu simpliste à côté de d'auteurs que je lis comme Inio Asano qui ont pas du tout le même style de dessin. Mais il m'a tellement conquis avec la capacité qu'il a à un peu de dessins, au final, peu de détails, à faire ressortir des émotions que, ouais, j'ai lu les 4 tomes et je me suis dit, ok, lui, je veux lire tout ce qui sort. Et c'est ce que j'ai fait depuis. J'ai tout lu. Comme ça.
Moi, j'ai pas tout lu parce que on en parlait en off. Moi, j'ai envie de me garder un peu de Gengo Shizuo sous le coude. J'ai toujours sur ma pile à lire Le Jour du Typhon qui est là, voilà, qui attend. Mais je veux pas le tout commencer pour l'instant parce que je me dis après, je vais avoir moins de choses à lire. Il m'en reste pas tant que ça, hein, ce que j'ai lu. Donc les, moi, je suis rentré par Tokyo Alien Bros. En fait, je suis passé, oui. J'étais sur Angoulême et dans un cache, en fait, il y avait le tome 1 qui était en vente. Et du Lézard Noir en occasion, il n'y en a pas tant que ça. Et quand j'ai vu Tokyo Alien Bros, j'ai dit hop là, viens par là, toi. Et c'est vraiment pas cher. Et après, j'ai été commander les deux suivants chez mon libraire, parce que c'est en 3 tomes. Et j'ai adoré. Moi, je suis tombé direct amoureux de son dessin, de sa manière d'écrire les histoires, de tout, quoi. Enfin, je trouvais que c'était vraiment incroyable. Et Mauvaise Herbe, j'ai un rapport un peu contrarié. Je vais pas dire que je l'aime pas, attention. C'est, j'ai commencé à le lire, j'ai lu le tome 1. Et j'ai fait, ah ouais, quand même, il sait aussi aller dans le dramatique, parce que Tokyo Alien Bros, même s'il y a des côtés sombres dans l'œuvre, ça reste une œuvre assez lumineuse aussi, pas autant qu'Hirai Yasumi, mais ça reste quelque chose d'assez positif. Mauvaise Herbe, c'est un autre business, hein. C'est clairement, un jour on en parlera quand je l'aurai terminé, mais c'est quand même beaucoup plus dramatique, la thématique elle est quand même super dure, et le problème de Mauvaise Herbe, c'est que j'ai acheté le tome 1 en même temps que le tome 1 d'Hirai Yasumi. Hirai Yasumi sortait
en
même temps.
Ah ouais, t'as fait le grand écart.
Et ben oui. Et en fait, donc j'ai lu le tome 1 de Mauvaise Herbe et après je suis allé sur Hirai Yasumi. Et Hirai Yasumi m'a mis une telle baffe, on va en parler. J'étais, ah non, je suis désolé Mauvaise Herbe, pour l'instant je te mets dans un petit coin. Je peux pas, voilà, j'ai pas envie de lire un truc dépressif pour l'instant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie d'aller vers Inio Asano parce que pas trop dans le mood de lire des trucs en lien avec la dépression. Même si on verra, c'est aussi une des thématiques du manga, on en parlera un peu. Mais il est tellement lumineux ce manga, je me dis ok, Mauvaise Herbe, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà. Mais...
Ah, je comprends le choix entre les deux, oui. C'est clairement, on a Hirai Yasumi qui c'est le soleil, et Mauvaise Herbe, c'est la lune. C'est aussi très beau. Mine de rien, il y a aussi un beau message d'espoir à l'intérieur. Mais il est caché derrière beaucoup plus de drames.
Ouais,
il est moins facile à trouver que dans Hirai Yasumi. Mais ouais. Elle n'est pas forcément accessible à tout le monde, Mauvaise Herbe.
Je trouve que
c'est vraiment plus particulier. Et ça peut toucher vraiment à des souvenirs ou des choses qu'on a vécues un peu plus profondes. Hirai Yasumi, c'est très bien pour découvrir Keigo Shinzo.
Complètement, complètement. Et ce qu'on peut dire, c'est que Les Arnoirs, pour le coup, a fait un gros coup en chopant et en signant Keigo Shinzo, parce qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont l'exclusivité de tout ce qui sort. Enfin, je vois pas l'auteur aller ailleurs. On espère juste un jour que secrètement ils arrivent à le faire venir un jour en France, hein. Angoulême, enfin, je sais pas, voilà, quelque part. Quoi,
il avait été à Angoulême, hein. Ça m'a fait mal au cœur de voir qu'il avait été à Angoulême. Ouais, je sais plus en quelle année, mais il était venu et forcément il était pas encore très connu à cette époque-là. Mais oui, s'il vient, je viens, peu importe comment.
C'est ça. Et c'est vrai que c'est un auteur, on se demande qu'est-ce qu'il peut avoir comme vécu pour nous pondre des récits tellement chargés en émotions, chargés en tout, enfin voilà. Et c'est vrai que moi j'avais entendu dire, et ça pareil, j'ai pas confirmé la source, mais on a appris que pendant l'écriture et la production de Mauvaise Herbe, il a été malade, on sait pas quoi, mais il a eu quelque chose d'assez grave. Et c'est ce qui fait que derrière, il est poussé un peu les potards à fond avec Hirai Yasumi, et qu'il est justement essayé d'aller sur un truc beaucoup plus positif, rempli d'espoir, et que ça soit vraiment quelque chose qui fasse du bien. Et on sent que lui se fait du bien à dessiner et qu'il nous fait du bien aussi. Donc tu vois, c'est un espèce de cercle vertueux qui fait que ça rend la lecture encore plus plaisante.
Exactement. C'est très positif et on sent aussi qu'il met de son vécu par moment. C'est sporadique. Ouais. Il le place comme ça, vraiment à travers certaines illustrations ou certaines phrases. C'est vraiment très, très subtil. Et pourtant, on arrive vraiment à retrouver un peu son passé, mais qui résonne aussi avec nous parce que même si on n'a peut-être pas vécu comme lui une maladie ou autre, on a forcément quelque chose qui va nous rappeler ça et ça va nous toucher encore plus.
Ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est pour ça que je voulais en faire un épisode. Parce que il y a un style de dessin, il y a un style de narration aussi, Kengo Shinzo. Et c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment lui accorder un épisode vraiment à part entière pour vraiment creuser un peu Hirayasumi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au Japon, on n'a pas énormément de grains, hein, puisque on est au tome 7. Hein, il y a le tome 5 qui vient de sortir à l'instant, qui nous a laissé encore tout. Je veux la suite. Et puis j'ai regardé un peu partout, mais pour l'instant, il n'y a pas de date d'annoncé pour le tome 6, donc va falloir être un peu patient. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le tome 1, c'est traduit par Sylvain Chollet, qui est un habitué de la maison, hein. C'est-à-dire qu'il a,
oui.
Il a traduit,
oui.
Je crois que c'est
avec
lui.
Avec Miyako Slacombe, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est lui qui a quasiment traduit tout Kengo Shinzo, si je dis pas de bêtises.
C'est possible. Ouais. Alors, non mauvaise herbe, apparemment, c'était Aurélien Estagé.
Ah, d'accord, autant pour moi. D'accord.
Je regarde sur le site en même temps, mais j'ai l'impression que c'est entre lui et Aurélien Estagé, concrètement.
Oui, puis ouais. Mais après, c'est vrai que lui, il est connu pour notamment, je crois qu'il a fait l'Attaque des Titans. C'est lui qui traduit l'Attaque des Titans, il me semble.
Possible, je les ai pas lus.
C'est un monsieur quand même qui a quand même beaucoup traduit et puis qui a traduit des gros gros titres. Et puis du coup, c'est lui qui il a fait Fire Punch aussi. Et là, donc du coup, c'est lui qui s'occupe d'Hirayasumi depuis la sortie. Et clairement, il fait le taf. Hein. Franchement, moi, je trouve que la traduction, elle est ultra fluide. Ça passe vraiment bien. Et c'est important de le signaler parce que il faut arriver à transposer, à transposer un peu le côté japonais pour nous français. Et je trouve que on a ce bon mélange entre les quelques termes purs japonais qu'on peut pas traduire malheureusement et vraiment le côté adaptation pour nous français. Et là pour le coup je trouve que c'est vraiment bien réussi quoi.
Oui, on en parle assez peu hein, des traducteurs, mais c'est vraiment eux qui retransmettent l'âme du manga. Et vraiment merci pour ces traductions de qualité quand même en France et en général et au Lézard Noir encore plus, je trouve. On a vraiment un beau travail là-dessus. Donc félicitations aux traducteurs et aux traductrices qui travaillent, nous écoutez.
Et ce qu'on peut le dire, c'est que Lézard Noir fait partie de ces maisons d'édition qui mettent vraiment en avant le traducteur et qui ne le mettent pas à la fin dans les crédits. Voilà, faut le dire. Mm-hmm. On le voit sur la première page, on le voit sur le site du Lézard Noir, on voit que c'est traduit par Sylvain Chollet. Donc c'est important parce que ça fait partie du package. Ce qu'on peut dire avant, et ça on peut remercier le Lézard Noir de nous le dire, mais ça veut dire quoi, Hirayasumi? Est-ce que tu avais fait attention à la petite définition qui était au niveau du sommaire?
Alors, absolument pas.
Absolument pas.
J'avoue, j'ai dû le lire, mais comme j'ai une mémoire un peu de poisson rouge, j'ai dû le zapper.
Non, je vais le lire tout simplement, ça sera encore mieux, puisque je l'ai sous les yeux. Hirayasumi, c'est un jeu de mots entre Hiraya, qui veut dire maison de plein pied, et Yasumi, qui veut dire se reposer, et Sumi, qui veut dire habiter. Et en fait, ça prend tout son sens. On comprend, parce que c'est un peu le personnage principal, c'est un peu cette maison. Voilà, mais
c'est vrai.
On y reviendra, parce que c'est... Et puis tous les gens qui gravitent autour de cette maison. Bon, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se lance dans ce pas à pas et on regarde ensemble le premier chapitre? T'as l'habitude de l'exercice,
avec
maintenant.
Avec plaisir.
Je vais me lancer, et puis après, tu réagis, et puis on commente un peu ce qu'on peut découvrir. Hirayasumi a cette particularité de ne pas appeler ça des chapitres, mais des jours. Premier jour, deuxième jour, etc. Et là, on commence par un préambule au début du premier jour qui s'appelle donc Hiroto et Natsumi. On va voir qui sont ces personnages, même si vous le savez, pour ceux qui ont déjà lu Hirayasumi. Et là, on va commencer par, allez, on va se le dire, trois belles pages, on va dire, allez, une page plus une double page et une troisième page en aquarelle juste magnifique. Et on voit donc notre personnage d'Hiroto qui est en train de prendre en photo Natsumi, qui est sa cousine, on va la prendre bientôt. Et que justement, pourquoi il la prend en photo, ça, on va le découvrir très très rapidement. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que il a un talent fou pour l'aquarelle, quoi. C'est magnifique, j'en veux plus, il n'y en a pas assez.
Alors attends, j'ai juste un petit message d'erreur, donc je mets ça en pause, je ne sais pas pourquoi.
Sur l'enregistrement ?
Ouais, il m'a proposé de changer de micro, donc je m'assure juste que j'ai encore bien le bon micro. Oui. Normalement, ce sera bon, mais dans le doute, je vérifie j'enchaîne ensuite avec pourquoi est-ce qu'il est bon. Ok, c'est bon, il est resté normalement dessus, si je dis pas de conneries. Oui, il est resté sur le micro, c'est parfait. Alors, hop. Donc, il était bon en aquarelle. Ouais, c'est vrai qu'en aquarelle, il est vraiment incroyable. Enfin, déjà, j'avais eu l'affiche qu'avait distribué le Lézard Noir, qui est magnifique, qui est une des rares que j'ai voulu encadrer. Il a un travail, en fait, des couleurs. On sent la douceur de son trait et la douceur de sa vision des choses dans son aquarelle. C'est-à-dire que on pourrait mettre des couleurs très criardes, etc., en se disant « c'est le printemps, on va mettre un ciel bleu éclatant ». Là, non, c'est vraiment tout en nuance et tout en douceur. C'est vraiment l'âme de Hirayasumi en aquarelle. Après, il en fait aussi dans d'autres titres, mais c'est vrai que là, ça reflète parfaitement l'ambiance du manga. Je suis fan.
Ouais, je te rejoins. Moi, je trouve que c'est un petit bonbon, en fait, le côté aquarelle en début de ce tome. Il y aura d'autres pages en couleur à la fin du tome, mais c'est vrai que dès qu'on peut avoir un peu d'aquarelle et de couleur, ça c'est cool, parce qu'on sait que le Lézard Noir, dans sa méthode de fabrication, ils vont à l'économie, hein, puisqu'ils n'ont pas de jaquette, ça reste une couverture souple mais cartonnée, un peu moins épaisse que peut-être que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et sur des formats, pour le coup, plus grands. Donc ça, pour le coup, c'est bien parce que ça rend hommage au trait de Kengo Shinzo. Mais le fait de se dire qu'on ait la couleur, c'est cool. Parce que du coup, là, tu vois, ils ont pas lésiné sur les moyens de nous permettre d'avoir la belle aquarelle de Kengo Shinzo. Donc je te rejoins, je trouve que c'est hyper appréciable. Ce qui va bien nous aider durant ce pas à pas, c'est que on voit une des premières particularités, c'est que on a une voix off. Alors on sait pas qui parle, mais on a une voix off qui nous raconte le quotidien de nos personnages, entrecoupé de petites scénettes. Et là donc on fait un bond en arrière, 3 mois plus tôt, Tokyo, quartier d'Asagaya. On découvre notre personnage d'Hiroto qui est dans un appartement qui a l'air d'être minuscule et qui se félicite et qui a l'air super content d'avoir trouvé une pièce de 500 yens qui représente 3,50 €. Donc on sent que ça ne va pas être simple tous les jours pour notre petit Hiroto. Donc on apprend que Hiroto Ikuta, 29 ans, friteur, est fan de takoyaki. Pour une mystérieuse raison, il est souvent abordé par des personnes âgées. Donc là on apprend qu'un friteur, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un employé à temps partiel. Donc ce bon vieux Hiroto, on apprend qu'il s'occupe en fait d'un stand de pêche. Il travaille donc à mi-temps dans ce stand de pêche. Et on apprend qu'il est donc parfaitement à l'aise avec les mamies, parce que l'inverse est plutôt compliqué, parce qu'on apprend assez vite que ce bon vieux Hiroto, il a un petit souci, c'est que il a du mal en fait à aligner plus de 3 mots en face d'une femme de son âge, ce qui est plutôt compliqué pour lui, on va se le dire. Et on apprend très vite qu'il avait quitté en fait sa campagne de Yamagata pour devenir comédien, je lis en fait la voix off, hein. Mais à force de perdre ses moyens, dès qu'il devait donner la réplique à une actrice séduisante, sa carrière a tourné court. Voilà un moment que Hiroto n'a pas de copine et cette absence commence à se faire sentir, même s'il n'a jamais connu encore le grand amour. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette introduction d'Hiroto ?
Je trouve qu'elle est très juste, parce que rien qu'avec la première page où justement on le voit excessivement heureux de trouver cette pièce quand même de 500 yens, c'est clair. Je trouve que c'est vraiment l'essence du personnage, c'est-à-dire les petits bonheurs de la vie. Pour moi, c'est comme ça que je vois Hiroto, c'est quelqu'un qui ne se complique pas la vie et qui va vraiment au plus simple. Chaque petite découverte est source d'une joie sans limite, j'ai l'impression, et c'est ça qui fait tout son charme. L'introduction est très très juste parce qu'on donc on comprend tout de suite l'essence et en même temps ça nous permet d'enchaîner derrière avec sa carrière de comédien qui n'a pas abouti et son côté très sociable avec les personnes âgées parce qu'on va avoir par la suite une personne âgée très importante qui va faire son apparition. Mais c'est vrai que déjà on décrit quelqu'un de fondamentalement gentil, on le sent. On sent la bienveillance autour de ce personnage. Et pour moi, ça m'a donné qu'une envie, c'est de découvrir vraiment la suite de ses aventures. Qu'est-ce qui peut lui arriver à ce jeune homme qui, malheureusement, n'a pas pu aller plus loin dans sa carrière, mais qui, apparemment, ne s'en sort pas si mal dans la vie.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce premier chapitre. On voit un peu toutes ces sociétés japonaises qui ont tendance à mettre les gens dans des cases. Tu vois, il y a toujours une appellation pour une personne. Lui travaille à mi-temps, donc c'est un friteur, donc il rentre dans la case du friteur. Et pour autant, on pourrait voir quelqu'un d'assez dépressif, parce que je vais faire un parallèle. On a un autre friteur de mémoire. Je ne sais plus si c'est un friteur ou pas, mais tu sais, on a aussi le personnage dans Tokyo Revenger, qui est dans une situation assez précaire aussi, qui travaille à mi-temps ou qui travaille pas ou qui est au chômage. Mais là, je crois que c'est un autre nom. Et lui, pour le coup, tu vois, on sent qu'il est à moitié dépressif, tu vois. Et lui, pour le coup, ouais. Toi, c'est complètement l'inverse, en fait. Même s'il est mis dans une case qui a tendance à le mettre plutôt dans une position précaire où tu sens qu'il pourrait être un peu sujet à la dépression, etc. Ben pour autant, il est ultra positif, quoi. Il prend la vie vraiment à pleines dents. Il croque vraiment la vie à pleines dents. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'on sent que ça va être un personnage qui va être lumineux et qui va irradier tout sur son passage. On avance dans le chapitre. Donc, il quitte son boulot et là, on apprend que il va sur le chemin du retour. Et là, son patron lui dit, c'est quand même étonnant, c'est quand même pas courant quand même de fréquenter une vieille bique pareille. Et c'est là qu'on va faire la rencontre d'une certaine Anae, une petite mamie que Kiroto a rencontrée et chez qui il est invité à manger et qui a l'air, on va se le dire, pas hyper agréable, hein. Un petit peu acariâtre, fermé. Et qui, le premier truc qu'il lui dit, c'est quand même, ça y est, te voilà. Donc on sent qu'il n'était pas forcément en avance et qu'elle l'attendait un peu désespérément pour manger. On nous décrit ce personnage, donc c'est Anae Wada, 83 ans, qui vit de sa retraite. Après avoir fait connaissance par hasard Hiroto, ils ont sympathisé. Et depuis peu, cette grand-mère un peu hors norme invite ce jeune homme, sans trop de sous, à dîner tous les lundis et les jeudis. Donc on comprend que c'est un rituel. Kiroto justement entretient une relation d'amitié avec Anae et c'est beau quoi, on se dit elle a l'air quand même malgré tout mignonne cette petite grand-mère, même si elle sauve ses apparences de grincheuse, il va quand même lui rendre visite deux fois par semaine, donc il y a peut-être quelque chose quoi.
Oui, et c'est vrai qu'elle est vraiment attachante parce que même si on voit tout de suite ce côté un peu dur, on sent qu'elle veut pas montrer ce qu'elle ressent vraiment, donc elle est juste très froide et elle lui fait comprendre que il mange trop vite, qu'il mange pas ses légumes. On sent derrière tout ça justement qu'il y a une approche très très douce et presque protectrice envers lui et qu'elle décrit d'ailleurs un moment d'Apollon. Donc elle est très ravie quand même d'avoir la visite d'un jeune homme aussi fringant. Et c'est vrai que ce côté, je sais pas comment ça se passe exactement au Japon, mais en France ou même dans la plupart des pays européens, quand on cuisine pour quelqu'un, c'est en général quand même qu'on a de l'affection pour cette personne. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle fait ça pour lui. Parce que, donc il est dit qu'elle travaillait anciennement, elle était cuisinière dans une cantine. Donc elle aurait pu très bien en avoir marre à la retraite et se dire c'est fini, j'arrête de cuisiner. Mais non, là, elle cuisine et elle cuisine deux fois par semaine pour quelqu'un qu'elle attend. Donc c'est vrai qu'il y a déjà une petite relation, vraiment très mignonne, parce qu'il y a ce jeu un peu d'humour entre les deux, d'amour-haine. Elle essaye de le protéger, mais en même temps, elle aime bien le taquiner sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un personnage vraiment attachant. Anae, c'est...
La nourriture va être un élément central, hein, dirait Yasumi, hein, faut le dire. Et on sent que c'est grâce à son contact que notre bon vieux Hiroto va aussi apprendre, hein, parce qu'il va beaucoup cuisiner par la suite, on le verra. Suppose que c'est Anae qui lui a transmis tout ça. Ce que j'aime beaucoup dans leur relation, c'est qu'elle a aussi cette relation bienveillante et inquiète un peu, de le voir dans cette situation-là. Puisqu'à un moment donné, elle lui fait un peu la morale en disant, là, t'approches quand même la trentaine, ce serait peut-être bien de t'envisager de te marier, parce que forcément, il approche des 30 ans, donc il faut se marier, il faut avoir une situation, etc. Et elle lui dit, elle lui pose une question, et c'est là que je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est sa réponse. Parce qu'elle lui dit, mais tu ne réfléchis pas au bonheur et à la prochaine étape de ton existence? Et là, il lui répond, bah non, je vous avoue que je me suis jamais trop cassé la tête avec le bonheur et ce genre de choses. Et là, elle est un peu sidérée, et elle lui répond, dans le fond, tu as bien raison, ne change rien. Parce qu'en fait, ça montre que bah, il se prend pas la tête, en fait. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de se prendre la tête dans le monde où on vit? Non, est-ce qu'on ne doit pas juste se satisfaire des choses simples? Enfin, un peu de philosophie, on va un peu philosopher.
C'est toute la philosophie d'Irayasumi.
C'est ça.
La philosophie d'Irayasumi, c'est est-ce que ce serait pas bon d'apprendre à lâcher prise et à juste prendre les petits bonheurs du quotidien et d'arrêter de vouloir absolument aller plus loin, aller chercher toujours plus de rendement, plus de travail, plus de choses comme ça, et pourquoi pas ne pas s'asseoir et profiter des petits moments de bonheur. Voilà. Les repas, effectivement, comme tu le dis, c'est un élément central. Bah, clairement, on peut dire que oui, la nourriture, c'est un moment de bonheur parce que souvent, on le partage. Et même quand on est seul, il y a ce côté, on peut observer, on peut profiter de l'ambiance et des moments pour soi. Ouais, c'est... Irayasumi, pour moi, c'est vraiment la philosophie du lâcher-prise.
C'est ça. Et tu vois, on disait tout à l'heure, ce qui est, je trouve, intéressant dans l'écriture de Kengo Shinzo, c'est qu'il nous montre aussi, enfin, petit à petit, par des différentes scénettes, il nous montre un peu aussi la façon de fonctionner d'Hiroto, puisqu'on se rend compte que, tu sais, on est dans un monde très protocolaire. Je le disais tout à l'heure, il veut pas, alors même si on le qualifie de friteur, je pense qu'il nous fait comprendre qu'il veut pas rentrer dans cette case-là, parce qu'il se définit pas comme ça, et pour autant, on lui donne cette étiquette-là. Et même, tu vois, tout le côté un peu protocolaire, du respect des anciens, etc., la traduction, en tout cas, qu'en fait Sylvain Chollet, nous montre qu'il est assez familier avec elle, puisqu'il l'appelle Mdame Année.
Oui.
Il a l'air de la... Je ne sais pas s'il la tutoie ou il la vouvoie, je n'ai pas fait attention à ça, mais en fait, en tout cas, à ce moment de l'histoire... Il la vouvoie, pardon. Il la vouvoie quand même.
Il la vouvoie, ouais, j'étais en train de regarder, justement.
Mais il y a un moment donné, sur la fin du repas, il lui fait un câlin, quoi. Et on se dit, Japonais qui sont quand même assez pudiques, il la prend dans ses bras, il la serre parce qu'elle lui a fait un cadeau, parce qu'il est un peu enrhumé, etc. Et ce que je trouve touchant, c'est que c'est là où c'est le génie de Kengo Shinzo, c'est qu'au moment du câlin, en fait, on a un gros plan sur l'œil atterré d'Anae, qui est surprise, en fait.
Oui.
Et qui, au final, lui renvoie son câlin en le serrant, en fermant les yeux, et le salue à la prochaine visite. Au prochain repas, puisqu'ils ont ce rituel, je vous le rappelle, du lundi et jeudi. Et là, on a le narrateur qui reprend le relais et qui nous dit « Le lecteur perspicace l'aura certainement ressenti. Madame Anae décéda le lendemain d'un infarctus du myocarde. » Est-ce que c'est le trop-plein de bonheur qui a fait que le cœur a lâché? C'est ultra touchant. Parce que en fait, on est au funérailles d'Anae, et on voit le regard vide d'Hiroto, et c'est très fort parce qu'on a la photo qui se brouille d'Anae, et lui il rajoute, elle est toute floue, votre photo, Madame Anae. Est-ce que c'est la photo qui est floue, ou est-ce que c'est lui qui a sa vision qui se brouille? Et
c'est ça, à cause des larmes. C'est terrible. Ce moment est terrible.
C'est beau, c'est pudique, c'est magnifique. Et c'est là où je trouve que, je le répète plusieurs fois, je suis en parallèle, en train de lire aussi du Mitsuru Adachi. Notamment, j'ai lu Two Touch, j'ai lu Rof. Je suis en train de lire Katsu, parce que ça sort en ce moment chez Nobinobi. Et c'est pour ça que je dis que je trouve que cet auteur-là, c'est peut-être son successeur. Dans la tranche de vie, dans la manière de transmettre les émotions, de raconter une histoire, d'impliquer le lecteur dans son histoire. Et il a forcément lu du Adachi dans sa... Voilà, ils n'ont pas la même façon de dessiner, mais dans le côté aussi minimaliste du dessin, même si il a un dessin, il dessine super bien, hein, on va y revenir. Mais,
oui.
Mais je trouve que pour moi, c'est vraiment son héritier direct. Parce que Adachi a plus de 60 ans, peut-être 70 maintenant. Il en a 37. Donc tu vois, tu te dis, est-ce que ce serait...
Ouais, c'est le côté générationnel, ouais. Les inspirations et autres. Mais c'est vrai que tu l'as dit, dans son dessin, il y a vraiment cette pudeur.
Ouais.
C'est le mot très, très juste. Il ne va jamais nous chercher en faisant un peu des dessins pathos ou pour essayer de nous faire pleurer. C'est au contraire, dans la simplicité des dessins, simplement sur un gros plan ou sur une petite phrase qui va aller nous chercher. Et spoiler alert, c'est le premier moment où je pleure dans ce manga, mais c'est pas le seul, ne serait-ce que dans ce premier chapitre.
D'accord.
mais c'est vrai que c'est, il arrive à être très très touchant parce que c'est très simple.
Ouais.
Et que parfois la simplicité vaut tous les mots.
Alors je suis peut-être cœur de pierre, moi il m'en faut un peu plus pour pleurer parce que je pleure pas facilement. Mais
oui, moi je suis très sensible.
Mais ça m'a un peu noué la gorge. Hein. Je t'avoue, je vais quand même dire que ça m'a un peu serré la gorge. J'ai dit oh, quand même, ah merde. On fait un bond dans le temps, 3 mois plus tard, et on découvre donc le personnage de Natsumi, la cousine d'Hiroto, qui dit au revoir à sa campagne de Yamagata, et qui se rend pour Tokyo, et elle est accueillie par ce bon vieux Hiroto qui l'attend sur sa mobylette. On apprend en fait que Natsumi a été admise aux Beaux-Arts, et qu'elle va en fait cohabiter avec son cousin. La voix off nous la présente, hein, on nous explique qu'elle s'appelle Natsumi Kobayashi, qu'elle a 18 ans, qu'elle se prépare à rentrer en fac d'art. Vous pensez peut-être que ça y est, Hiroto a trouvé une petite amie. Eh ben non, en fait, pas du tout. Elle fait partie de sa famille, c'est sa cousine. Et on apprend que...
J'adore cette voix off. Hein.
Ouais, elle est vraiment, elle est très juste. Hein.
Vraiment, elle suit dans tous les tomes, elle y sera et je trouve
c'est
qu'elle ça. Est incroyable.
On va y revenir, c'est sa manière d'écrire. On va y revenir quand on va décrypter Hirayasumi tout à l'heure. Et on apprend qu'ils vont vivre du coup sous le même toit. Et là, la petite phrase de Natsumi qui dit « C'est ça la fameuse maison que t'as légué cette mémé sans héritier. Oh, j'aurais préféré un appart, moi. » Et là, il lui dit « Hey, commence pas. Hein. » Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette première rencontre avec Natsumi qui semble un petit peu désabusée quand même hein. Elle semble pas forcément ultra positive.
Ouais, mais au final, c'est une adolescente qui quitte sa campagne pour venir en ville et on a tous ce rêve un peu de se dire j'aurai mon appartement et je vais faire des petites soirées et je vais être indépendante et de se retrouver du coup dans une maison à 20 minutes, je crois, ils le disent, de la gare la plus proche à pied. Est-ce que vraiment c'est ce qui fait rêver quand on a 18 ans et qu'on monte à la capitale, comme diraient les jeunes ? Je suis pas sûre.
Non.
Mais... Justement, je trouve que c'est très réaliste parce qu'il va en parler un peu plus tard quand il va parler justement au portrait d'Anae en lui disant que c'est l'âge ingrat. Ben, c'est comme ça. Est-ce qu'on ferait pas pareil ? Je pense que si. Mais j'aime bien ce petit côté justement de elle se rend pas compte de la valeur sentimentale qu'a cette maison. Et Hiroto à côté va lui dire justement, on commence pas. Voilà, c'est un peu pour dire respecte un peu ce qu'on m'a légué en tout cas parce que c'est... Ça va devenir vraiment, comme tu l'as dit, le point central de cette œuvre, cette maison.
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on oscille quand même aussi avec un peu d'humour. Il y a de l'humour très, très juste. Justement, Natsumi le questionne. « Mais attends, elle t'a vraiment mis sur son testament ?»« Mais c'est aussi simple que ça ?» Donc, il explique que c'est un peu compliqué, mais qu'en fait, elle avait pris ses dispositions, etc. Et là, il dit « Mais tu l'as arnaqué, en fait, c'est ça ?» Et lui, il répond, mais non, mais n'importe quoi. Mais ça, c'est génial parce que ça va être, leur relation va être très, très, très explosive comme ça et à se chercher, à venir se titiller, etc. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans sa manière, il nous fait un tout petit flashback d'une case pour nous expliquer en fait qu'ils étaient très proches, étant plus jeunes. Explique qu'ils jouaient ensemble, qu'ils faisaient déjà de la pêche ensemble, qu'elle était extrêmement triste quand lui est parti pour Tokyo pour justement embrasser sa carrière de comédien. Donc on sent que ça va être c'est des retrouvailles, ils se sont pas vus depuis très longtemps, mais en même temps voilà on sent que ils ont été proches étant plus jeunes et ils vont devoir apprendre à se découvrir et puis à vivre ensemble justement et c'est pas gagné d'avance donc. Et ça, c'est chouette, et c'est une belle relation. J'avance un petit peu, parce qu'on va arriver à un moment, et c'est là où je vais te demander ton avis, où les émotions vont revenir à la surface, et je mettrai ma petite pièce que c'est peut-être là que la petite larme est retombée. Hein.
On va faire un pari.
On va faire un petit pari. Natsumi est enrhumée, parce que forcément, elle a pris froid sur la mobylette d'Hiroto, et forcément, attention, comme on dit, le fusil de Tchekhov, qu'est-ce que sort Hiroto ? Eh ben, il sort le fameux alcool de coin, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais Anae a offert une bouteille d'alcool pour justement qu'il soigne son rhume. Et là, il dit que ça vient de Madame Anae, et elle s'énerve, « Attends, mais c'est de l'alcool, mais j'hallucine, il est encore consommable, t'es sûr ?» Mais non, mais laisse tomber, j'y crois pas, c'est remède de grand-mère. Et tu m'écoutes, et là, en fait, il est parti dans une nostalgie, ou pareil, encore avec justesse, en fait, on revoit une petite photo où Hiroto pose à côté d'Anae, et là, il craque. Et là, elle comprend pas. Elle dit, mais t'es flippant, pourquoi tu pleures? Et il me dit, non, mais c'est que Madame Année n'est plus là et que je pourrais plus jamais boire, en fait, son alcool de coin. Et puis là, elle dit, mais arrête, putain, t'as les nerfs qui lâchent. Elle dit pas putain, mais bon.
Oui.
Et c'est là où, voilà, elle lui dit, stop, arrête, c'est bon, tu me fais peur. Et c'est là où, voilà, on se rend compte qu'elle comprend pas trop ce qu'il a vécu. Mais en même temps, elle essaie à sa manière aussi un petit peu de le réconforter.
De lui remonter, ouais, de lui remonter le moral.
Et c'est chouette. Enfin, moi, je sais pas ce que t'en as pensé de ce petit passage, mais on sent que ça va être dynamique, enfin, vivant.
Ouais, bah déjà, c'est vrai que je vois Hiroto et Natsumi plutôt comme des frères et sœurs que comme cousins-cousines.
Ouais, complètement.
Le fait qu'ils cohabitent, ça crée vraiment plutôt une relation qui s'approche de frères et sœurs que simple cousins. Et effectivement, cette scène-là, bingo, m'a fait pleurer une deuxième fois. Même là, juste en ouvrant le manga et en regardant à nouveau cette case, j'ai la gorge serrée et j'ai les larmes aux yeux. Parce que, encore une fois, c'est sur une case où il n'y a aucun dialogue qui va nous chercher. Vraiment, juste cette scène où, vous le verrez, page 39, où il est au sol, avec la tête dans sa manche, en train de pleurer. Juste ça, c'est hyper touchant. Vraiment terrible.
Ouais.
Et c'est vrai que Natsumi à côté qui comprend pas forcément et qui essaye de faire un peu
mal à l'aise, ouais.
Des blagues ou d'aller un peu le chercher pour faire en sorte qu'il sorte un peu de cette phase. Mais elle comprend aussi à ce moment-là peut-être l'importance qu'a eu Anae dans la vie d'Hiroto. Importance qu'elle voyait pas forcément avant, mais là, de voir l'impact que ça a sur son cousin qui justement est d'habitude si joyeux et si positif, de le voir à terre en train de pleurer, je pense que ça lui a fait quelque chose et elle s'est peut-être rendu compte à ce moment-là, ah, Madame Anae, c'était quelqu'un, il faut peut-être que j'ai un peu plus aussi de respect à ce moment-là envers elle.
Ah oui, c'est là où je pense que ça...
Magnifique passage.
Ouais, ça va prendre une dimension pour Natsumi où... Elle va se dire que je suis pas si mal là où je suis. Et on avance dans l'histoire puisqu'on on est le lendemain où bah, elle a enfilé son uniforme pour la fac. Que bah, Hiroto, en même temps qu'il se brosse les dents, lui fait un compliment en disant que pas mal du tout. Et il la voit stressée et là, il a ses quelques mots qui lui dit un peu à sa manière à lui, hein, t'inquiète pas, ça va être fun la fac. Et là, ça lui redonne le sourire et elle lui dit oui. Et là, bon, forcément, ils font la petite photo souvenir qui nous ramène forcément au début du manga, où on voit la fameuse photo, il n'y a pas besoin de le refaire. C'est là où l'auteur fait un génie, puis fait du adachi aussi, hein, parce qu'il nous montre des cerisiers en fleurs. Et forcément, qui dit cerisiers en fleurs dit rentrer au Japon. Et donc, c'est là qu'on comprend bah, que voilà, elle va faire sa rentrée à la fac. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, bah, pareil, on a là, à ce moment-là, telle une série, telle une fin d'épisode. D'ailleurs, il n'y a pas d'animé hein, sur RSMI, on ne vous l'a pas dit, mais ça ferait un très bel animé, bien réalisé, ça ferait un joli animé avec une belle musique. On a la voix off, du coup qui reprend le dessus et qui nous explique que donc une petite maison à 20 minutes de marche de la gare, comme tu le disais, d'Asagaya, c'est ainsi que ce garçon désinvolte au train-train bien huilé et cette jeune fille en pleine transformation commencèrent leur vie commune à Tokyo dans cette maisonnette de plein pied. Et voilà. Et quelque part, ça nous ramène à la définition de ce que veut dire Hirayasumi, le jeu de mots Hirayasumi.
Exactement.
Et ça, c'est chouette. Et on a la recette, parce qu'en fait, on le voit pas, mais on le comprend. On est sur la dernière page du chapitre. En fait, c'est la porte du frigo de la cuisine. Donc, on a la photo de Hiroto avec Anae. On a la photo donc, qui nous renvoie à la couverture. C'est pas la couverture, pardon. J'ai des bêtises. C'est la double page intérieure, pardon. La double page intérieure, on voit donc Hiroto et Natsumi stressés devant la maison. Et on a une recette. Voilà, je vous invite, auditeurs, à la noter. Si vous voulez un jour faire un curry authentique, eh ben, il faut quoi ? Il faut une demi-cuillère à soupe de cumin. Il faut dorer le gingembre et l'ail à feu moyen. Un demi-oignon coupé en petits morceaux. Deux ou trois piments verts. Une cuillère à café de curcuma. Une demi-tomate hachée. Et après, c'est écrit tout petit. Et bon, j'ai pas besoin de lunettes, mais là, clairement, je passerai trois plombes à le déchiffrer. Alors, c'est pas l'âge, hein, attention, je vous entends dire derrière, derrière vos écouteurs. Non, je vois bien, mais c'est vraiment écrit tout petit pour ma défense. Et c'est là-dessus que se conclut ce premier chapitre touchant qui va nous donner la température de ce que va être Hirayasumi. Et je vous le dis tout de suite, spoiler alert, ça va être aussi bien comme ça tout le temps. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur le premier chapitre? Et après, on va se laisser porter sur le dessin, sur l'écriture, etc. On va rentrer un peu plus dans le détail.
Bah, le premier chapitre, c'est vraiment... Comment dire? Ça montre vraiment toute l'excellence de Keigo Shinzo. En peu de choses, en peu de mots, en peu de personnages, au final, on en a trois, on va dire, qui sont présentés. Il va vraiment mettre en place toute l'essence du manga, qui est les doutes, justement, dans la vie, qui sont un peu présentés là par Natsumi, les petits bonheurs qui sont présentés par Hiroto, et le côté éphémère de la vie, avec Anae, qui était là très peu de temps, mais qu'on reverra plusieurs fois dans le manga par des flashbacks très bien amenés, comme toujours. Et moi, ce premier chapitre, bah, c'était sûr que j'allais continuer, et c'était déjà sûr dès le début que ça allait être un énorme coup de cœur, peu importe ce qui se passait après. La barre était mise tellement haute, et j'ai tellement confiance en Keigo Shinzo que je savais que ça allait être excellent. Et c'est ça qui est incroyable avec Hirai Yasumi, c'est que qu'on lise le premier chapitre ou qu'on lise les 5 tomes, la qualité, elle est toujours incroyable. On peut être plus ou moins touché par certaines situations, mais le niveau est toujours ultra haut. C'est impressionnant.
Ouais, là, mais je te rejoins complètement. Hein. C'est vrai que c'est d'une justesse. Et les premières pages te donnent déjà la tendance du manga. Et ce qui est assez fort, c'est qu'il va garder ce rythme et cette maestra tout le long. Je pense que je m'avance un peu, hein, mais c'est peut-être son chef-d'œuvre, clairement.
Il y a des chances. Je veux pas m'avancer non plus, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est son petit chef-d'œuvre.
Ouais,
on sent que là,
clairement,
il est au sommet de son art.
Et j'ai pas terminé encore Mauvaise Herbe, mais voilà, Hirai Yasumi, je trouve que c'est tellement fort ce qu'il nous propose. Il arrive en fait à jouer en fait sur le dessin qui peut paraître assez simpliste, mais en fait beaucoup de profondeur dans le dessin de Keigo Shinzo. Je trouve qu'il a une manière de dessiner tout en rondeur, tout en douceur. On le sent, la douceur dans son dessin. C'est ça que je trouve qui est vraiment chouette. Et il va à l'efficacité. Je trouve que on est vraiment... moi, je trouve qu'on rentre dedans, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de très accueillant, en fait, dans la manière de dessiner de Keigo Shinzo. Et je trouve que ça me parle. Je sais pas si je pourrais dire que ça peut parler à tout le monde, parce que c'est quand même une manière assez atypique, il faut le dire. C'est pas non plus dans les canons, les standards de ce qu'on peut trouver du manga.
Oui.
Mais
c'est clair.
Mais clairement, je trouve que c'est super, quoi. Et on le redit, clairement, quelqu'un qui est pas attiré par le manga, on lui met ça entre les mains. Ça fait pas manga dans le dessin, même si on retrouve certains codes
c'est
du manga.
Ça. Ouais.
Et à côté de ça, je sais pas, c'est difficile à décrire, hein, mais moi c'est un dessin qui me touche en tout cas énormément. Et je suis content à chaque fois de me dire, ah, ça c'est Keigo Shinzo, il a sa patte, quoi. Toi, c'est vraiment, tu te dis, c'est
oui,
lui,
on le reconnaît, ouais. On le reconnaît vraiment. Et on voit quand même l'évolution. Du coup, pour moi qui ai lu maintenant quasiment toutes ses œuvres, on voit l'évolution de son trait et on sent qu'au final, il a juste appris à être plus précis sur certaines expressions du visage, mais il a gardé vraiment ce côté très rond que tu décrivais dans les visages, même dans les vêtements, c'est toujours un peu fluffy, c'est toujours très doux, peu importe que ce
fluffy,
soit son trait ou l'histoire,
ouais,
c'est
un
très
peu
doux.
Tout...
Ah, c'est un peu...
Ouais, un peu nounours, quoi.
Ouais, fluffy, pour ceux qui voient pas ce que c'est un peu comme les pancakes fluffy, c'est-à-dire c'est très moelleux,
ouais.
c'est très,
c'est
très rond
ça.
Et très... très, je sais pas, c'est vraiment que de la douceur et on sent une chaleur aussi à travers son dessin.
On a l'impression que le personnage d'Hiroto, on a l'impression qu'il est, alors que c'est plutôt les vêtements qui font ça, on a l'impression qu'il est un peu obèse, tu sais. Et en fait, pas du tout. C'est juste ce quand tu prends la première double page, en fait, tu regardes, tu te dis putain, il a l'air bien portant quand même. Et en fait, non, c'est juste les vêtements larges, les vêtements à la cool parce qu'il veut être à l'aise dans ses vêtements et alors que non, pas du tout, il est d'un gabarit normal, j'ai envie de dire. Enfin bref, qu'est-ce que la normalité? On pourrait débattre pendant 3 heures.
Vous avez 3 heures.
Vous avez 3 heures.
Vous pouvez nous envoyer ça sur Instagram.
C'est exactement ça. Sur le compte de Maïmo, hein, pas le mien, hein, d'accord?
Bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr.
Évidemment.
C'est moi qui relis. mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on sent aussi dans sa façon de s'habiller. Il s'habille pas mal, mais il s'en fiche un peu. Comme tu l'as dit, c'est le confort. Il faut qu'il soit à l'aise avant tout. Et en même temps, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il ne va pas aller s'acheter énormément de vêtements. Mais c'est vraiment le confort. Je ne sais pas, il a cette image de « j'aimerais être comme lui ». C'est, je le vois, je me dis, il a tout compris.
Et puis il s'en fout. Et à plusieurs reprises, ouais. Que ce soit par l'agent immobilière, on va en parler un peu des personnages après, hein, qui gravitent dans le monde d'Hirayasumi, que ce soit le patron d'Hideki, hein, son pote d'enfance, il est très souvent jugé par son style vestimentaire. Il y a souvent une petite réflexion qui se prend et il ne relève jamais. On sait très bien qu'il l'entend, mais il ne relève jamais parce qu'il en a rien à faire. Ça lui passe à 300 km au-dessus de la tête. Et c'est ça qui est fort, et on va glisser gentiment un petit peu sur la manière d'écrire. C'est que il a, encore une fois, c'est la manière de Kengo Shinzo d'écrire. Je trouve qu'il a une justesse pour écrire ses personnages, une justesse dans la manière justement de raconter une histoire. Cette voix off, elle arrive toujours au bon moment, elle est jamais lourde, et puis souvent une voix off, souvent on catégorise une voix off comme une facilité d'écriture. Moi, j'entends beaucoup dire que tu un narrateur ou quelqu'un qui commente ce que tu es censé voir, c'est de la facilité d'écriture parce que c'est de la fainéantise de réalisation, etc. Quand on prend le cinéma, moi, je ne suis pas tout le temps client d'une voix off qui vient décrire ou qui vient t'expliquer ce que tu es en train de voir à l'écran. Et c'est vrai que j'entends souvent dire que c'est un peu une fainéantise. C'est-à-dire que le mec, il ne croit pas dans la manière dont ça m'est réalisé et qu'il se sent obligé de rajouter une voix off pour pouvoir décrire, pour pouvoir expliquer ce que tu vois. Parce que des fois, tu peux être un peu con et ne pas comprendre ce que tu es en train de voir. Mais là, c'est tout l'inverse. Je trouve qu'à chaque fois, elle arrive au bon moment. Elle vient rajouter juste des éléments de contexte ou présenter un peu plus en profondeur un personnage que tu ne peux pas voir, justement, pour nous raconter un petit peu la psyché, ce qu'est la personne qu'on rencontre. Et ça, je trouve que c'est fort quand il le fait.
Ouais, et il vient aussi, ça vient aussi souligner parfois ce que nous, on est en train de penser.
Oui.
Je me suis déjà surprise à lire ce que j'étais en train de penser en disant, ouais, c'est exactement ça.
Et c'est pas forcément induit, c'est plus une interprétation qu'on peut en faire, et il va dans le sens de notre interprétation. Et c'est ça que je trouve qui est très très fort.
Mais comme tu le dis, ça prend jamais le pas. Le but n'est pas d'expliquer l'histoire. C'est d'apporter un peu de contexte sur certaines choses, sur certains personnages. Mais il va pas rajouter des éléments importants, en tout cas, qu'il n'a pas dessiné. Ça va vraiment juste être une petite anecdote, un petit quelque chose, un ressenti, une émotion qui est mise en avant. Mais c'est vraiment pas là pour voler la vedette. C'est au contraire, ça accompagne l'histoire et le cheminement d'Hirayasumi.
Est-ce que t'as un personnage on aime tous les deux, je pense, que ce soit Hiroto ou Natsumi, mais est-ce que t'as un personnage favori dans ce qui, parce que ça nous permet d'introduire un petit peu le lore d'Hirayasumi, est-ce que t'as des personnages que tu préfères, est-ce que t'as envie de parler de personnages en particulier, voilà, je te laisse un petit peu la main, puis après je prendrai la suite.
J'aurais tendance à dire que je me retrouve quand même beaucoup dans Natsumi. Alors déjà, ça c'est, on en avait parlé en off, mais elle est née le même jour que moi, le 8 février.
Ça aide.
Et quand j'ai lu ça, alors déjà que ce manga, j'ai l'impression d'avoir un lien particulier avec lui. Et vraiment, il y a quelque chose entre ce manga et moi. Et là, encore plus, je me suis dit, ok, il y a vraiment, c'est un signe. Il y a quelque chose un lien fort. Et c'est vrai que Natsumi... comme dit, 18 ans, elle est prise aux Beaux-Arts, et en fait, c'est une jeune femme qui n'a absolument pas confiance en ce qu'elle fait. Elle doute toujours, elle veut pas montrer ses œuvres, elle veut pas montrer ce qu'elle fait parce que elle se dit qu'elle est pas assez bien, qu'elle a pas le niveau. Et c'est vrai que je me retrouve souvent là-dedans à me dire, non, mais les autres font mieux, donc pourquoi est-ce que je ferais? Et j'aime le cheminement qu'elle a justement dans Hirayasumi, de prendre un peu confiance, de regarder Hiroto, comment il fonctionne, et de s'inspirer de ça au quotidien. Mais on sent que le changement n'est pas facile. Dans certains mangas, en un tome, elle aurait pu devenir une superstar, et ça y est, elle a hyper confiance en elle. Alors que là, non, c'est dans des petites victoires au quotidien qu'on remarque ça. Et ça me touche beaucoup. Voilà. Donc Natsumi, ce serait mon petit personnage
elle a
préféré.
Elle a un arc hyper intéressant, Natsumi, puisqu'elle va, on va le dire ici, c'est pas un énorme spoil, mais elle va embrasser la carrière de mangaka. Et on va suivre un peu son parcours. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait, on va aussi, par son intermédiaire, par des petites touches, revoir un petit peu, parce que pour ceux qui ont déjà lu Bakuman ou d'autres manga dans ce style-là, on a déjà vu un peu ce que sont les coulisses du monde du manga, mais là, par son intermédiaire, elle, on va voir aussi son parcours et que c'est dur justement de percer, faire des concours pour être pour justement avoir ses œuvres mises en avant, le tanto qui la suit, qui va être à la fois dur mais juste avec elle. Enfin, c'est non, c'est son personnage est intéressant parce que il est c'est un matériau brut qui te demande qu'à être modelé, tu vois, et à prendre un petit peu de l'expérience justement pour devenir la femme qu'elle va être demain. Et je trouve qu'elle est intéressante parce que on arrive souvent à quitter notre personnage principal pour aller avec elle ou pour aller voir d'autres personnages secondaires dans l'histoire. Et en fait, on est content de les retrouver aussi. Au début, je trouvais le personnage d'Hideki assez insupportable. Et il a été designé pour être d'une manière à le détester, en fait, faut se le dire. Il a une tête complètement improbable. Je vous laisserai jeter un œil à quoi ressemble Hideki.
Oui, en tout cas, clairement, ouais.
Ouais.
Oui, oui.
Très, très c'est prétentieux.
C'est un personnage très étrange.
Ouais, qui a tendance des fois à un peu écrasé par sa personnalité Hiroto. Et puis le tome...
Bah, l'opposé d'Hiroto.
Exactement. Et on se dit, mais comment ils peuvent être copains, quoi? Et le tome 5 te met une baffe dans la gueule, quoi. Sur ce personnage.
Ouais, le tome 5...
J'en dis pas plus. Ouais. Mais Hideki va avoir un développement différent de celui d'Hiroto, forcément, puisqu'il va pas suivre... Il a un boulot, il est commercial, et...
Il a un enfant.
Il est jeune papa. Et on va suivre un petit peu son parcours, qui est pas simple non plus à lui. Et le tome 5 est ultra touchant. C'est peut-être son moment à lui, le tome 5. Autant le tome 4, c'était le moment de l'agent immobilière. C'est plus l'agent immobilière qui est mise en avant. Et j'aime beaucoup ce personnage aussi, qui essaie de faire ce qu'elle peut pour avancer dans la vie aussi. Hein. Je comprends pas trop son métier. J'ai l'impression qu'elle vend des appartements, mais elle fait aussi l'entretien, elle fait le dépannage. Qu'est-ce que c'est ce métier d'agent immobilière qui...
Ouais, au Japon, c'est peut-être un peu différent.
Qui doit aller réparer des toits.
Chez nous, mais effectivement.
C'est quoi ce... Ouais, qu'est-ce que c'est ce travail?
C'est un peu plus... C'est couteau suisse.
Et,
voilà,
et c'est étonnant.
C'est un nouveau travail, mais...
Parce qu'on sent qu'il peut peut-être y avoir un petit truc entre l'agent immobilière et Hiroto. Mais ils ont l'air d'être tellement différents sur plein de choses. Mais pour autant, on sent qu'elle pourrait des fois un peu s'inspirer d'Hiroto pour prendre la vie un peu plus positivement, parce qu'on sent qu'elle est très stressée, qu'elle est bouffée par la vie. Donc, vraiment intéressant.
Mais je pense que c'est...
C'est bien dosé, tout ça, je trouve, en tout cas, tous ces personnages.
C'est super bien dosé, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit, en fait, tous ces personnages. La force de Keigo Shinzo, c'est d'arriver à très bien développer aussi bien son personnage principal, en tout cas, ses personnages principaux, que les personnages dits secondaires qui sont jamais totalement secondaires chez lui. Et c'est vrai que chacun s'inspire un peu les uns des autres. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est exactement comme pour Natsumi, le changement ne se fait jamais d'un tome à l'autre. Il n'y a pas de gros changements d'un coup. C'est impossible dans la vraie vie et c'est exactement pareil là. Et c'est ce réalisme vraiment que j'aime particulièrement. Parce que, on est tous stressés, on a tous nos caractères, etc. Et... on le découvre à travers des petites scènes. Par exemple, Yomogi, je vais rien dévoiler de fou, mais elle est un peu bordélique. Voilà.
Un peu.
C'est comme ça.
Un peu.
Un peu. Et c'est vrai que, au final, on pourrait se dire qu'elle doit absolument changer, mais parfois, il faut aussi accepter que, on n'est pas des êtres parfaits. On a tous nos petits défauts. Est-ce que pour elle, ce serait pas ça? Mais c'est vrai que ce développement des personnages secondaires est hyper touchant, parce que là, comme tu l'as dit, ce tome-là, le dernier, le cinquième, est plutôt sur Hideki. Avant, on avait Yomogi. On a eu aussi pas mal de scènes avec Akari, qui est la meilleure amie de Natsumi en fac, qui est peintre. Et on a vraiment tout ça qui s'entremêle pour, faire briller la tranche de vie, faire briller les gens, l'humain avant le dessin et autres. C'est vraiment le côté
le quotidien
très ouvert, et très humain. Et la poésie du quotidien, ça, Keigo Shinzo est hyper fort.
C'est fort parce qu'il n'y a pas besoin de raconter.
C'est là toute la douceur.
Une grande histoire, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir un scénario ultra développé. Il raconte juste le quotidien.
Exactement.
Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, entre guillemets, ici, en tout cas, de vous dire, il y a tel arc, cet arc-là, c'est un banger, tu vois. Enfin, t'es un peu à la manière de tous les gros shonen qu'on peut avoir en disant, oh là là, ça, c'est un truc, tu verras, c'est un truc de fou. Mais non, là, c'est
Hirai Yasumi qui est un banger.
Voilà, c'est l'œuvre en elle-même. Et en fait, t'as plein de petites histoires qui, des fois, s'étendent sur un ou plusieurs chapitres et qui vont suivre en fait ce quotidien de nos personnages, et c'est toujours des instants donnée. C'est vraiment dans le temps où là on a la rentrée scolaire, on va avoir forcément les fêtes, on va avoir Noël, on va avoir les vacances, tout ça, enfin tous ces trucs-là sont
les périodes d'examen.
Exactement. Et tout ça c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment cool et c'est génial à lire. Et je trouve qu'il y a du génie aussi dans l'écriture parce que tu décrivais tout à l'heure qu'on a le personnage de l'agent immobilière qui de l'agent immobilière, agent immobilier, je sais pas comment on peut, ouais, je sais pas comment on le dit, tu vois, je suis en train de bugger, même, ça fait bizarre de le dire comme ça. Bref, vous avez compris. Elle est dans l'immobilier. Ils vont la faire rencontrer un personnage qui a des tocs et qui lui est minimaliste. La rencontre entre les deux est assez détonnante. Et c'est ça qui fait, je trouve, que c'est plein de personnages riches en couleurs, en émotions, tout ce qu'on veut, qui fait que je trouve que c'est un grand manga. Et j'ose, enfin, je prends pas, voilà.
Oui.
Je vais forcer Val à le lire pour qu'il puisse le classer en son âme et conscience. Mais clairement, l'année prochaine, quand on fera l'épisode d'anniversaire, Irayasumi, spoiler alert, ça va très très haut. Ça va très très haut, en premier chapitre. Il y a tout dans ce premier chapitre qui fait que c'est un grand manga et qui va donner le là pour tout le reste. Et j'ai qu'une seule, entre guillemets, un stress, c'est que ça se termine bientôt, quoi. Tu vois, j'en ai pas assez, quoi.
Oui. C'est, effectivement, il fait pas de série très longue. On a Mauvaise Herbe qui est en 4 tomes, on a Tokyo Alien Bro qui est en 3
c'est
tomes.
Sous-entendu en 8,
après, c'est beaucoup des one-shots.
Tu vois, c'est annoncé 8-9 tomes. Ça. Mais comme ça a l'air...
C'est vrai que j'ai peur de les quitter.
Mais oui, moi aussi. Et comme je me dis...
ça va être un vide.
Que c'est... Ça a l'air de quand même bien fonctionner au Japon aussi. Donc peut-être qu'ils vont le dire, continue un peu tant que tu peux. Mais ça sera cool à relire après, c'est ce qu'il faut se dire. On pourra le relire.
Oui.
Voilà. Parce que...
Et parfois, il vaut mieux que ça s'arrête avant que ça devienne moins bon.
Oui.
C'est le risque, mais je pense que Keigo Shinzo sait s'arrêter quand il faut. Vu que c'est justement un auteur de séries courtes ou de one-shot, je pense qu'il a cette capacité à se dire « Ok, j'ai raconté ce que j'avais à raconter, ça sert à rien d'aller plus loin. » Et pour l'instant, je pense qu'il en a encore pas mal sous le pied. Vu ce qu'il est en train de mettre en place avec les personnages, j'ose espérer que ça va durer encore au moins 3 ou 4 tomes. Mais c'est vrai que du Hirayasumi, on en voudrait franchement tout le temps, sans arrêt.
Il a tellement réussi à développer en fait ses personnages secondaires qu'on a envie d'en apprendre un peu plus sur tous ces personnages, sur tout leur background, sur tout sur eux, quoi.
Mm-hmm.
Et il y a matière. Tu vois, c'est là-dessus, si je dois le comparer, et pareil, on vous la recommande aussi, mais Tokyo Alien Bros, qui est en 3 tomes, ça parle d'un tel high concept qui est deux frères extraterrestres métamorphes qui arrivent sur Terre pour voir comment vivent les humains, pour voir s'ils peuvent justement potentiellement aller coloniser cette planète. Il y a un moment donné, une fois que tu as fait le quotidien des personnages, il s'est fait vraiment des petites histoires où on voit le quotidien des deux frères. Et à un moment donné, je pense que 3 tomes, c'était le bon équilibre, tu vois. J'aurais pas vu plus de 3 tomes,
oui.
Parce que ça aurait été un petit
peu
redondant.
Non, c'était parfait, ouais.
Voilà. Même si il aurait pu explorer le côté... un peu sombre d'un des frangins qui n'est pas plus développé que ça,
oui.
Et que je me dis, ah, j'aurais peut-être vu un truc un peu plus... Tu vois, il touche du doigt d'un truc et puis il n'y est pas allé. Moi, je ne vous en dis pas plus, mais il y a un moment donné dans le manga où ça shift un peu. Mais en tout cas,
carrément.
3 tomes, c'était le bon équilibre, tu vois, sur le... Sur qu'est-ce que... Sur Mauvaise Herbe, je suppose que 4 tomes, c'est bien aussi, même si je n'ai pas encore tout lu. Parce que voilà, Hirayasumi...
4 tomes, c'est très
ça
bien.
Ça peut faire 10 tomes, moi je prends, hein. Sérieusement.
Ah oui, alors là, moi aussi.
D'ailleurs,
vraiment, ça peut continuer.
Tu penses que ça fera combien de tomes, si ça va être le mot de la fin, pour conclure sur Hirayasumi ? Tu penses combien de tomes ?
Là, on est au 5 en France, il y a le 7 qui est sorti au Japon. Alors, j'aurais tendance à dire, vu comment sont partis les personnages, etc., 10 tomes, 12 grands
ouais,
max.
J'aurais dit pareil, pas mieux.
Je vois pas plus
ouais,
que
pas
ça.
Mieux. Je pense que puis 12 ça sera bien.
Et ce sera très bien.
Ça serait très bien. Ouais. Même si ça fait 8 hein, on lui en voudra pas hein, mais on pense qu'il y a quand même le potentiel de l'écriture pour aller chercher le 12e parce que une scolarité de fac c'est long hein. Ça peut être long.
Oui.
Je dis ça.
Ça peut être très long si elle continue ses études et tout, on sait pas. Puis du coup comment elle rentre dans la vie professionnelle après enfin,
t'imagines ça, si on s'en reparle dans 10 ans et on est à 25.
Je dirais pas non.
Non mais voilà, après pourquoi pas hein, mais je me dis 12 c'est bien déjà s'il fait 12 mais bon.
Oui.
On ne sait pas. Dites-nous, auditeurs, hein, si pour ceux qui lisent Hira Yasumi, pour vous, combien de tomes fera la série? Je suis très, très curieux de l'entendre, de mm-hmm. nous en parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou dire quelque chose sur Hira Yasumi à part dire allez le lire? Allez donner votre argent
ouais,
aux armoires.
Ouais, c'est un peu... Ouais, bah, c'est vrai que j'avais été... C'est ma petite fierté, donc comme je suis très très fan de Kaigo Shinzo et du Lézard Noir, ça avait été ma fierté d'être utilisée sur un bandeau publicitaire d'Hira Yasumi sur Manga News. J'avais été citée. C'était très simple, j'avais écrit « Arrêtez tout et lisez Hira Yasumi ». Donc je réitère cette phrase, « Arrêtez tout et lisez Hira Yasumi ». C'est drôle, triste, touchant, plein d'espoir. Honnêtement, après une lecture d'un tome d'Hira Yasumi, on se sent invincible. Donc je peux que vous conseiller de lire ça et de faire découvrir ce manga. Voilà, s'il y a une œuvre de ce mangaka à lire, je prends le risque, elle n'est pas terminée, mais c'est clairement Hira Yasumi.
Ouais. Là, clairement, on est sur une, c'est une œuvre qui est éditée par une maison indépendante, hein, donc mmh. il y a plusieurs possibilités, hein, c'est soit vous commandez en direct sur leur site, hein, puisqu'ils ont un site marchand qui permet directement d'acheter, mmh. ça permettra d'avoir un peu plus de marge. Après, je pense que la meilleure publicité, c'est aussi de faire un peu le forcing auprès de votre libraire, hein, pour qu'il le pousse, oui. pour que ça soit mis en avant dans les librairies. Surtout que maintenant, alors, il fut un temps où c'était pas toujours simple d'avoir le lézard noir, c'était compliqué mm. pour les libraires de les commander. Là, aujourd'hui, il passe par le réseau de la DIF, hein, donc c'est-à-dire que c'est le même diffuseur de presse que Pika, Mangetsu, etc. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est facile de commander du lézard noir. Donc, voilà, moi je commence à en faire un peu la propagande auprès de mon libraire, hein, pour qu'il commence un petit peu à le mettre en avant. Bah, d'ailleurs, le tome 5, j'ai pu l'acheter chez lui, mais c'était compliqué, hein, pour qu'il en ait. Donc clairement, oui. S'il y a peut-être un titre que votre libraire doit avoir dans sa globalité, c'est peut-être Hira Yasumi. Et puis voilà, dites-lui, voilà, mm-hmm. il faut faire un peu de la bonne propagande pour ce super titre qui est Hira Yasumi.
C'est ça, on a souvent tendance à se dire qu'il vaut mieux commander directement sur le site, mais en fait, il vaut mieux commander chez le libraire pour que le libraire mette aussi en avance. Il y a beaucoup de gens qui demandent un titre, il va s'y intéresser. Et c'est vrai que quand on regarde passer sur sur Instagram, moi, comme je suis principalement dessus, ben on voit pas mal de coups de cœur de libraire sur Hira Yasumi. Donc plus on en parle, plus les gens vont le connaître. Et ouais, comme tu le dis, il faut faire la propagande de ce titre. Je suis pas trop du genre à faire de la propagande, enfin, sauf pour le Lézard Noir et Kaigo Shinzo, mais voilà, c'est vraiment un titre qui mérite d'être connu. Et petit aparté aussi, le tarif peut parfois faire un peu peur, parce que Lézard Noir, on est en général sur du, je crois qu'Hira Yasumi, c'est 13€,
13€
le,
oui,
le tome.
Complètement.
Ne vous arrêtez pas à ça, parce que déjà, quand même, vous avez des pages couleurs aussi bien à la début qu'en fin de tome, sur ce tome 1 d'Hira Yasumi. Et comme dit, c'est une petite maison d'édition, enfin, plus si petite maintenant, mais quand même encore indépendante. Et surtout, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Donc, désolé pour les grandes maisons d'édition, je sais qu'elles ont besoin de soutien aussi, mais quitte à devoir acheter en neuf, privilégier les petites maisons d'édition et moi j'ai tendance à voir les gros titres en occasion plutôt, mais voilà, aider aussi ces petites maisons d'édition.
Oui, complètement. Après, c'est sûr que faut aussi, il y a le format qui est un peu plus grand, il y a, bon, mm-hmm. c'est du 200 pages, hein, 220 pages si je dis pas de
oui.
bêtises.
Et le papier aussi est de très bonne qualité à l'intérieur, il est pas du tout transparent,
c'est ça.
Enfin vraiment,
après,
c'est à prendre en compte aussi.
C'est sûr que c'est un peu plus cher, après c'est mm-hmm. le temps passé à le lire, bon ben voilà, ça c'est chouette aussi à se retrouver dans sa librairie. De toute façon, voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est très compliqué dans le monde où on est de tout acheter. Donc voilà. Là, on vous parle aujourd'hui d'Hira Yasumi.
Oui.
Bah, foncez sur Hira Yasumi. Malheureusement, c'est mm-hmm. pas dispo en numérique. Donc voilà, faut l'acheter en papier et puis voilà. Et puis normalement, vous devriez pouvoir vous faire votre avis. Petite précision, on vous mettra le lien dans la description du podcast. Il y a possibilité de découvrir un extrait sur le site du Lézard Noir. Mm-hmm. Je vous mettrai le lien. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça vaut, parce que on l'a pas précisé, mais le Lézard Noir a cette particularité d'avoir ses mangas sous blister. Donc pour les ouvrir en librairie, si le libraire ne vous l'ouvre pas, alors normalement il est censé le faire, hein, mais c'est compliqué de lire du Lézard Noir en librairie, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur internet. En général, je crois que tous ces titres, il y a un extrait disponible, ou au mieux le premier
ouais,
chapitre,
ouais.
Pour découvrir l'œuvre. Ben voilà, on a fait le tour de ce moment feel good, hein, avec Hiraya Somi.
Oui.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, ma chère Alicia?
Alors, principalement sur Instagram. C'est là que je suis
c'est
le plus.
Que tu sévis.
Sachant qu'en ce moment, c'est ça. Sachant qu'en ce moment, je me diversifie. Je ne m'arrête plus qu'au manga. J'ai commencé à découvrir les comics.
C'est bien.
Aïe, j'ai mal à mon portefeuille.
Oui, les comics, c'est cher
et,
aussi.
Et les romans que je reprends. Mais effectivement, les comics que j'aime beaucoup aussi. Donc, si vous êtes justement un peu dans cette vibe de manga un peu mature ou un peu plus indé, voilà, sur mon compte, vous trouverez d'autres recommandations un peu comics pour vous mettre à autre chose que le manga. Parce que c'est très bien le manga, mais c'est bien d'être curieux et d'aller voir d'autres choses aussi.
Complètement. D'ailleurs, dans le comics, il y a aussi il y a pas mal de labels indépendants où il n'y a pas que du super-héros, hein, du Batman, Superman, Spider-Man, etc.,
oui.
J'en passe. Mais à côté de ça, si vous voulez découvrir les classiques de chez Marvel et de chez DC, je donne ça ici parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on les a. Vous avez les Urban Nomades, donc de chez Urban, qui ont les licences DC, mais pas que. Où vous allez pouvoir découvrir des titres vraiment hyper cool à pas cher. Entre, je crois que c'est les premiers prix, je crois que c'est 5,90 et ça monte jusqu'à 9,90 si je dis pas de bêtises. Et Panini a un peu imité aussi Urban, puisqu'ils ont aussi sorti des titres à petit prix. C'est pas le même format, c'est des formats un peu plus grands, mais ils ont sorti des titres comme Ultimate Spider-Man, les Boys de mémoire, les Ultimates, qui est l'équivalent des Avengers, mais à la sauce Ultimate. Ultimate étant un univers alternatif, une dimension parallèle à l'univers classique, puisqu'à une époque, Marvel a voulu relancer ses séries et a ressorti une nouvelle franchise qui n'a rien à voir avec le classique. Ça lui a permis de prendre un peu plus de liberté, notamment c'est au Ultimate qu'on doit un Nick Fury noir, qui a du coup été joué après par Samuel L. Jackson, parce qu'à la base Nick Fury est blanc, mais dans la version Ultimate il est noir, donc bref, on s'en fout de la couleur, mais c'est juste pour vous donner cet exemple là et c'est très cool parce qu'il y a des super récits dans les Ultimates et je vous invite à y aller parce que là, moi, toi, j'ai été me prendre la partie que je dis pas de bêtises. J'ai été prendre Ultimate tout court. Je voulais me refaire les Avengers à la sauce Ultimate. Donc voilà, toi, j'ai ressaisi l'occasion. Et c'est des tomes beaucoup plus condensés. Donc souvent, c'est des séries plus courtes. Ultimate Spider-Man, c'est dispo en 11 tomes à 9,90 et ça va sortir tous les mois ou tous les deux mois. L'occasion de vous retrouver la super série de Bendis. Voilà, c'est la petite reco en fin d'émission.
C'est ça, c'est des reco comics.
Ouais, il faut donner un peu un coup de main aux comics en ce moment, parce que ça, c'est pas très, très. Le marché du comics, c'est compliqué. Hein. C'est en ce moment, depuis que la grande série Walking Dead, qui cachait un peu la forêt comics, s'est arrêtée, c'est dur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les éditeurs comme Urban ou Panini essaient un petit peu d'aller.
La Belle 619, que j'aime bien.
Ouais, qui faisait partie pendant longtemps, ou qui est toujours chez Ankama, je sais plus. C'est un peu compliqué, leur histoire.
Je crois que c'est encore Ankama, mais c'est.
Ouais, je sais plus. Mais bref, en tout cas, c'est bien le comics aussi, il y a des super trucs. Et je trouve que le fait de rendre accessible à petit prix, à petit format, ça vient aller chercher, aller gratter le lecteur manga. Et on voit pas mal d'influenceurs manga qui commencent à aller lire du comics. Et ça, c'est chouette, parce qu'il y a des super titres aussi dans le comics. Bref, je m'étends pas.
Exactement.
Une émission de manga, donc un jour, peut-être, je parlerai de comics dans une autre émission. Qui sait ? Mais en tout cas, ouais, pour ce qui est le podcast, vous pouvez donc, pareil, nous retrouver sur Twitter, Instagram, essentiellement. On est aussi sur Discord, si vous voulez discuter avec nous, même si c'est pas le truc le plus dynamique du monde, mais c'est un lieu où on peut venir un peu papoter, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui arrive par la suite ? Il y aura très certainement, parce que le hasard du calendrier fait qu'il y aura peut-être un autre Kengo Shinzo qui arrivera peut-être le mois prochain. Voilà.
Oui.
Un petit épisode où je vais peut-être vous faire mon petit feedback aussi de Slam Dunk, parce que j'ai vu Slam Dunk. Donc voilà, je vous en parlerai aussi, parce que tout le monde a donné son avis, je vais aussi vous donner le mien. Et puis le mois prochain, enfin en tout cas dans le mois, je vais aussi commencer mes épisodes spéciaux dédiés à Dragon Ball avec la perfecte couleur qui sort à la fin du mois. Donc voilà, j'ai hâte de démarrer ça, donc j'ai hâte de vous en parler. Donc voilà, et puis. Alicia, merci beaucoup de ta présence.
Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés aussi.
Merci à vous aussi pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Voilà, c'est toujours plus nombreux à écouter le podcast. Et ça, c'est cool, même après plus de 3 ans. Donc ça, c'est top. Et on va continuer. Voilà, on va continuer à garder ce rythme comme on peut. Mais il y a toujours la passion est là. Donc voilà. Je m'arrête parce que c'est interminable comme conclusion. Je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Ciao tout le monde !
Bye !